Voilà, vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà, comme je l'avais précisé la fois dernière, donc cette prédication est la suite de la première. Donc je vais commencer par un résumé pour nous remettre en mémoire ce qui avait été dit. Et je continuerai donc dans Éphésiens 4, 17 à 24. Donc Dieu avait fait une promesse à Abraham dans Genèse 22. Et cette promesse annonçait en fait le règne du Seigneur Jésus, celui qui devait venir comme un puissant sauveur et qui assurerait une délivrance à une postérité innombrable, pour que celle-ci soit rendue capable de servir Dieu sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté. La question qui était posée, c'était: avez-vous rencontré, non pas juste un sauveur, mais avez-vous rencontré un puissant sauveur, tel que Zacharie le prophétisait dans Luc 1? Un puissant sauveur. Le sauveur doit être puissant parce que la corruption de l'homme est profonde dans tous les domaines de sa vie. Et donc nous avions considéré l'édifice monstrueux qu'est l'homme, dont la vie entière est fondée donc sur, en accord avec le verset 17, et 18, les versets 17 et 18, fondés sur une dureté de cœur telle que l'intelligence en est obscurcie. L'homme est donc plongé dans l'ignorance, incapable de capter les vérités spirituelles jusqu'à confondre la notion de bien et de mal et à vivre une vie tellement déréglée et dissolue que toutes ces actions sont entièrement tournées vers le péché et l'impureté. Cela rend l'homme complètement étranger à la vie de Dieu, à savoir qu'il est vivant au péché et mort à Dieu. En conclusion, j'avais dit que, à moins que nous n'ayons entendu la voix d'un puissant sauveur, nous sommes toujours morts dans nos offenses et nos péchés. Mais si nous avons entendu la voix de Jésus, le Messie, le Christ, alors nous sommes en demande d'être formés et enseignés par lui. La prédication ce matin s'adresse donc surtout à ceux qui sont en demande d'être formés et enseignés par le Seigneur Jésus. Donc je vais lire à partir du verset 21. Je vais reprendre le verset 20 aussi pour avoir le début de la phrase. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Certains ont des idées assez arrêtées sur ce qu'est la nouvelle naissance. Pour les uns, il s'agit d'une expérience. Pour les autres, il s'agit d'une expérience en deux étapes. Pour certains, il s'agit d'une expérience et du parler en langue. Pour d'autres, on entre dans le salut par le baptême. Enfin, il y a beaucoup de façons de voir les choses. Et je ne veux pas discuter de ça maintenant. Ce que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur lui-même le dit. on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et dans tous les cas, une conversion sincère à Jésus doit nous amener à découvrir de nouveaux horizons à mesure que nous expérimentons la délivrance de ce puissant sauveur dont nous parlons. Verset 21 donc, « Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Qu'est-ce que ça signifie que d'être instruit? Lorsqu'on veut apprendre, il y a une nécessité qui est celle de se soumettre. C'est obligé. On ne peut pas apprendre si on ne se soumet pas. Pas seulement à une voix, mais même à un esprit de la personne qui enseigne. On peut faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais on est obligé de se soumettre. C'était le témoignage de l'apôtre Paul. Il disait, en tant que pharisien, il avait été enseigné sous les pieds de Gamaliel. Il était aux pieds de son maître, en bas, en dessous. Et c'est la condition pour apprendre. Si vous dites que vous apprenez en vous plaçant au-dessus de la personne qui veut vous enseigner, je ne vous crois pas. Vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez que ce que vous avez envie, tout ce qui s'exprime de votre propre cœur, mais non pas ce que la personne veut vous enseigner. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 11, on va le lire parce que c'est important, Matthieu 11 au verset 29, il a donné le principe de l'apprentissage. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug est un symbole de soumission. C'est ce qu'on met, on l'a vu sur les photos que Grâce nous a montrées, on a vu ces deux bœufs qui étaient attachés l'un à l'autre, côte à côte. Ils sont attachés par le joug, mais en réalité, on les attachait aussi par la queue. Parce que ça évitait absolument qu'il y en ait un qui parte avec le postérieur faire des choses sans que l'autre soit d'accord. Et le joug est extrêmement important pour l'apprentissage. Parce que quand on a un jeune bœuf qu'on veut entraîner, qu'on veut former pour tirer la charrue, la façon qu'utilisent les paysans pour lui apprendre son nouveau travail, c'est de le placer à côté d'un bœuf expérimenté pour qu'il fasse exactement comme ce bœuf qui est expérimenté. Et quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous », ça ne veut pas dire « Tenez, moi je me débarrasse du mien, je vous le donne, débrouillez-vous avec, vous allez vous en sortir ». Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « Prenez-le avec moi et marchez à côté de moi et je vous enseignerai comment il faut faire ». Ça change tout, n'est-ce pas? Jésus, pour porter ce joug, a accepté de se dépouiller de sa divinité. Il a retiré sa divinité, pour se mettre sous un joug et pour nous enseigner sous ce joug, alors que nous sommes attachés. C'est là qu'il peut parler à notre âme. Moi, j'ai labouré avec un cheval, ce n'était pas un bœuf. J'ai labouré avec un cheval. Et heureusement que le cheval était bien dressé. Sinon, je pense qu'il m'aurait emmené là où il avait envie d'aller, mais il était gentil. Il m'aimait bien, ce cheval. Il était très gentil avec moi. Mais lorsque vous marchez avec Jésus, il va vous enseigner à garder le sillon. Il va vous enseigner à marcher droit. Il dit, non, là tu dévies. Regarde, il faut que le sillon soit droit comme le premier que nous avons fait. Voilà, marche en rythme. Non, pas trop vite. Parce que sinon la charrue se soulève et elle ne rentre pas suffisamment profondément dans la terre. Et là, ne te laisse pas distraire. On met des œillères aux animaux qui labourent, c'est pour éviter qu'ils se laissent distraire par les choses qui se passent sur les côtés. Ça les protège aussi un peu des mouches. Les mouches. Prince des mouches, Belzébul. Il y a beaucoup de symboles dans ces choses-là, n'est-ce pas? Alors, ne te laisse pas distraire. Et lorsque le champ est labouré, et lorsqu'on peut dételer, alors on peut se retourner. Pas avant, on ne se retourne jamais quand on laboure. Parce que lorsqu'on se retourne quand on laboure, on part de travers. On regarde toujours le sillon précédent. Une fois que c'est fini, on peut se retourner et regarder le travail accompli. Et là, on peut entendre la voix du Seigneur qui nous dit « c'est bien ». Bon et fidèle serviteur, tu as bien travaillé. Le Seigneur nous enseigne à nous dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On ne devient pas disciple en un jour. Et l'apprentissage implique une notion de durée. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas que nous soyons formés à mieux faire ce que nous savons déjà faire, mais c'est que nous soyons transformés à son image. C'est que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, n'est-ce pas? Or, il y a quelque chose de paradoxal dans l'apprentissage. C'est que avant d'apprendre, ou lorsqu'on apprend, il est nécessaire de désapprendre. C'est une des conditions de la transformation de la personne. Apprendre à désapprendre. C'est Erasme, qui était un contemporain de Luther, qui partageait beaucoup de ses idées, qui a déclaré la chose suivante, « Il faut désapprendre avant d'apprendre. Et la première tâche est la plus difficile des deux. » Ce qu'il nous faut désapprendre, c'est notre ancienne vie, notre passé. Que nous ayons grandi dans des familles chrétiennes, avec une éducation formidable, juste. Que nous ayons eu des bonnes manières, ou qu'au contraire, Nous ayons connu des traumatismes importants, des injustices, ou que nous soyons issus de familles à difficultés sociales. Nous devons désapprendre tous les apprentissages que cette vie passée nous ont d'une certaine manière contraints à posséder. La façon dont nous avons été éduqués nous a donné des façons de réagir aux événements. Parce que sans le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, et nous l'avons vu dans les versets 17 et 18, l'homme devient un édifice de monstruosité. Qu'il soit enfant de parents chrétiens ou que les parents ne soient pas des chrétiens. Ils sont des monstres d'égoïsme. Ils sont des monstres de fraude. Ils sont des monstres de mensonge, de ruse, de séduction, de tromperie, de manipulation. Frères et sœurs, si nous voulons connaître la transformation de nos vies, il faut être prêt à désapprendre notre ancienne vie avec l'aide du Saint-Esprit. Tous les mauvais apprentissages, tous les pouvoirs que nous avons acquis par la ruse. Il n'y a pas que l'argent qui donne du pouvoir. Les capacités intellectuelles donnent du pouvoir énorme sur des esprits qui sont plus faibles. La connaissance de la psychologie humaine donne un pouvoir énorme sur une grande partie de la population. Nous devons accepter de désapprendre toute cette vie passée. Accepter de ne plus contrôler notre monde. Accepter que ce soit le Seigneur Jésus uniquement qui nous montre comment nous devons marcher dans ce sillon qu'est notre vie avec lui. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé dans l'esprit. De la même façon que la désobéissance à Dieu nous prédétermine à la perdition éternelle, la conversion nous prédestine au salut. Je vous laisse réfléchir avec ça. Je sais que c'est chaud. C'est-à-dire que s'ouvrent à nous des possibilités nouvelles que notre intelligence obscurcie, ce sont les termes de l'apôtre Paul au verset 17, notre intelligence obscurcie jusque-là n'avait jamais envisagé. La conversion, c'est le réveil de l'intelligence. C'est l'entrée de la lumière dans les ténèbres. La conversion, ce n'est pas juste un instant. C'est un changement de vie et un processus. Un développement. La conversion ne se subit pas, elle se vit. Et ma crainte, c'est que nombre de croyants se sont dans l'attente du prochain miracle. Dieu est venu. Dieu est venu une fois. Il m'a sauvé. Et certes, il nous a sauvés. Certes, il vous a sauvés. Il est venu. Et il a fait quelque chose de grand dans mon cœur. Il a fait un miracle. Et j'attends pour un second miracle. Et pour un autre miracle. Et encore un miracle. Et pendant que j'attends, je subis. Nous ne pouvons pas attendre que Jésus fasse à notre place ce que nous devons faire nous-mêmes. Jésus a dit dans Matthieu 18, quand il parlait des enfants, il disait « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, nous devons vivre notre conversion comme un enfant vit son propre développement. L'enfant ne grandit pas par miracle. En tout cas, c'est parce qu'il attend. Peut-être qu'il vit certaines situations comme des miracles, je suis d'accord, surtout lorsqu'il est bébé. Et c'est le cas des chrétiens lorsqu'ils naissent de nouveau. Beaucoup de situations dans leur vie sont des miracles de Dieu répétés. Mais avec le temps qui passe, il faut que la conversion soit vécue. L'enfant apprend non par miracle, mais parce qu'il a les yeux fixés, rivés sur ses parents, sur son environnement, sur les gens qui sont autour de lui. C'est pour ça que dans l'Église, les hommes et les femmes qui sont présents ici doivent être des exemples pour tous les enfants. Pas seulement pour les leurs, mais pour ceux des autres également. Nous devons apprendre la dépendance à Dieu et arrêter de rechercher des miracles. Parce qu'à chaque fois que nous nous obstinons à demander à Dieu de faire à notre place ce que nous savons pertinemment nous devons faire nous-mêmes, c'est un péché. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un péché. Parce que nous en sommes conscients, nous le savons. Et nous en sommes responsables devant lui. Vivre la conversion nécessite des ajustements permanents. En fait, la conversion, elle est continue. Elle est continuelle. C'est jour après jour. C'est minute après minute. C'est en permanence rester droit dans ce sillon. Le miracle, c'est quand Dieu trouve en nous la volonté de nous soumettre à lui. De soumettre notre vie naturelle, c'est ce que Micheline disait, soumettre notre vie naturelle, notre envie naturelle. Et lorsque nous lui soumettons nos envies naturelles, nous donnons à Dieu un signal. C'est le signal que nous voulons qu'il continue le processus de transformation. Démarrer lors de la conversion. Nous demandons à Dieu qu'il nous habille de l'homme nouveau. C'est le sujet du verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes justifiés. Mais Dieu nous demande aussi d'obéir à la vérité. C'était le reproche qu'il faisait aux Galates. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté d'obéir à la vérité? Cette vérité qu'il a déversée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Revêtir l'homme nouveau, c'est quoi? C'est ce qui est dit au verset 21. Apprendre Christ. C'est ça, revêtir l'homme nouveau. Désapprendre l'homme, revêtir et apprendre Christ. Apprendre Christ, c'est recevoir Christ. C'est pas recevoir la doctrine de Christ. C'est recevoir une personne en nous. La conversion, pour être synonyme de délivrance, puisque c'est là le but ultime, doit être continuelle. Qu'est-ce qui nous empêche de nous soumettre à Dieu, si ce n'est l'orgueil? Si ce n'est ce moi exacerbé qui veut prendre la place de Dieu, qui veut exister à tout prix. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le moi dans l'Ancien Testament, eh bien suivez le périple du peuple d'Israël avec le peuple d'Amalek. Amalek symbolise la force du moi dans la vie du croyant. Ce moi que Dieu a de nombreuses reprises avait ordonné au peuple d'Israël de détruire, de dévouer par interdit tout ce qui leur appartenait. Et Israël a failli à de nombreuses reprises, et notamment Saül, qui a été désavoué par Dieu à cause de cela, parce qu'il n'avait pas détruit entièrement les biens d'Amalek. Ce moi cet orgueil qui est en nous pleure pour que nous ne le touchions pas. Il pleure pour que nous ne le fassions pas souffrir. Il nous dit non, pitié, épargne-moi. Laisse-moi vivre juste un peu. Je ne prendrai pas beaucoup de place. Fais-moi grâce. N'interviens pas trop violemment. N'est-ce pas, Dieu? Tu ne fais pas souffrir. Tu es bon. Je ne sais pas si ça fait écho dans votre esprit, ça. Dieu, tu n'es pas un tortionnaire, n'est-ce pas? Tu ne fais pas souffrir tes enfants. Dieu répond ce qu'il a répondu au peuple d'Israël, invariablement. Je veux la mort de ton moi. Je veux que cet orgueil démesuré disparaisse de ta vie. Ton ego. Infâme, écœurant, qu'il ait un vernis, qu'il soit beau ou qu'il soit craqué, n'a pas d'importance. Cet ego infâme et écœurant, je veux qu'il disparaisse à jamais de ta vie, parce que c'est ta vie qui en dépend justement. Frères et sœurs, nous devons faire de la conversion un sacerdoce. une préoccupation quotidienne, quelque chose qui en nous vit avec dynamisme tous les jours. On ne peut pas juste dire, mais voilà, ce jour, je le marque d'une pierre blanche, c'est le jour où j'ai été sauvé, parce que ce jour et cette pierre blanche peuvent aussi être une pierre tombale pour notre vie spirituelle, si nous le voyons comme ça. Nous devons nous convertir minute après minute pour que le Seigneur puisse effacer de notre mémoire ce que nous étions avant, cette capacité que nous avions de nous-mêmes à faire les choses, ces compétences, ces dons. Certains ont des dons puissants qui ne viennent pas de Dieu, qui sont la puissance démoniaque en eux, et qui les dirige et les manipule, et dirige et manipule aussi l'environnement dans lequel ils sont. Nous devons accepter le joug de Dieu sur nos épaules, marcher avec lui, pour qu'il puisse, alors que nous nous dévêtissons, que nous enlevons ce vieux vêtement, lui-même venir nous revêtir d'un vêtement neuf. Avons-nous rencontré un puissant sauveur? Et si nous l'avons rencontré, ce sauveur nous a-t-il délivré de nous-mêmes? Est-il en train de nous délivrer de nous-mêmes pour que nous puissions revêtir l'homme nouveau? Voilà. Exceptionnellement, je vais m'arrêter très tôt. Mais j'aimerais que nous puissions baisser la tête pendant quelques minutes et que nous puissions réfléchir à cela et répondre, soit dans notre cœur, soit de vive voix au Seigneur, pour que ce changement auquel nous aspirons et que nous attendons peut-être comme un miracle, eh bien, nous puissions nous-mêmes, par une soumission continuelle, nous en remettre avec foi au Seigneur et à la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit à mesure que nous nous dépouillons de nous-mêmes. Voilà, que l'on puisse passer un peu de temps et ensuite peut-être chanter un chant si quelqu'un l'a sur le cœur.